campagne. Bonjour, nous abordons cette semaine après le Pas-de-Calais, le Nord. Une semaine un petit peu écourtée. Vendredi, le jeu des 1000 euros proposera en direct une spéciale, un spécial jeu festival de la BD d'Angoulême. Durant 4 jours, on va s'intéresser à ce département avec une originalité pour ouvrir cette édition qui correspond et qui répond à la question plutôt de la finalité d'un lieu de culte désacralisé. Que faire d'une église sécularisée? Bah, pourquoi pas une épicerie solidaire? C'est ce qui a été fait à Coudekerque. Il y a des noms un peu spéciaux, hein, pas facile à prononcer. Coudekerque Branche, avec l'association Petite Pierre. L'édifice tout en briques érigé à la fin des années 50 a été récemment transformé donc en épicerie coopérative et solidaire sous le nom de Label Épicerie. Il y a un lien à notre page. Dans le Nord, il y a l'intelligence collective, mais aussi l'innovation. Unéole en est la preuve. Et vous allez avoir des explications dans un court instant par Quentin Dubrulle, premier invité. Orchy est la capitale, l'épicentre même d'une chicorée historique, la chicorée Leroux. Seulement, la société se défait de son musée, de son jardin qui risque d'être repris par un promoteur immobilier. C'est à cet endroit qu'intervient le collectif Cœur d'Orchy, présidé par notre seconde invitée, Pauline Casalegno.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Quentin Dubrulle, bonjour.
Bonjour.
Quentin, vous êtes fondateur et PDG d'Unéole et vous entrez aujourd'hui dans la gamme des solutions face à des impératifs et des urgences écologiques, énergétiques, climatiques, avec des éoliennes. Certains vont dire « Ah, wow, encore des grands mâts !» Non, non, vous, c'est l'éolienne la moins chère du monde. Elle est en ville, elle prend pas beaucoup de place, elle est silencieuse, elle est zéro carbone, elle est design, elle utilise des matériaux écologiques ou recyclés. Et tout cela, vous l'avez conçu à partir de quelle réflexion?
Alors, la réflexion du départ, c'était en ville, on est dans les zones où les humains consomment le plus d'énergie et on est dans les zones où les humains produisent le moins d'énergie. Donc, je me suis dit, il y a peut-être un domaine de réflexion dans lequel se poser. Rapidement, on est rentré dans le photovoltaïque qui proposait pas mal de choses, mais il y avait un énorme trou dans la raquette au niveau de l'éolien. Donc voilà, j'ai monté une équipe, on a intégré un incubateur à l'IMT Douai, et on s'est mis à développer une machine faite pour les zones urbaines.
Ouais. 2 ans d'incubation, naissance de l'entreprise en juillet 2014, et l'objet, alors la fameuse machine, elle est révolutionnaire, elle est 100% française, elle est 95% Hauts-de-France, elle fait, alors on va dire, tiens, c'est étonnant quand même, 3 mètres d'eau sur 2 mètres de largeur, ça peut produire quel type d'énergie, ce genre d'engin?
Alors là, c'est la deuxième partie de notre boulot, la première étant évidemment l'éolienne, la deuxième, c'est identifier les meilleures zones où poser l'éolienne. Mmh. En sachant que sur une toiture de bâtiment, on peut faire quasiment x10 en énergie entre la zone la plus exposée et la zone la moins exposée. Donc, je ne peux répondre à cette question ouvertement que quand on a étudié le bâtiment et qu'on peut, on sait. Néanmoins, on s'est obligé à poser des éoliennes que dans des endroits où au mètre carré, on produirait plus d'énergie avec une éolienne qu'avec du panneau photovoltaïque. Un bon endroit, ça va être entre 700 et 1500 kWh à l'année pour l'éolienne, et donc entre 150 et 250 kWh par mètre carré.
Ouais. Et Unéole, donc l'éolienne d'Unéole, n'a rien à voir avec un grand moulin à vent, c'est ce que je disais.
Alors, moulin à vent, c'est les types d'éoliennes à axe horizontal, donc souvent à 3 pales. Nous, on est sur un axe vertical qui peut se permettre de produire de l'énergie, même si le vent est perturbé, qu'on retrouve en ville en règle générale.
Mmh. Donc 95% des fournisseurs dans les Hauts-de-France, on commence par les pales à base de fibres de lin dont la production est intense dans les Flandres.
Alors, il y a la fibre de lin qui est un renfort que nous rajoutons. Enfin, pour être honnête, la base de fonctionnement, c'est de l'aluminium. Mais on n'est que sur la filière aluminium recyclé, qui nécessite beaucoup moins d'énergie que l'aluminium, la première fonte. C'est-à-dire que 100% de l'aluminium qu'on met dans notre éolienne pourrait être 100% recyclé dans 20 ou 30 ans en fin de vie de l'éolienne.
Mmh. Alors, vous avez mis au point cette machine Urban Design silencieuse en 2017, 3 mètres de haut, 2 mètres de largeur, avec cette capacité de produire, comme vous le disiez, jusqu'à 1500 kWh par an, un prix de vente qui ne devrait pas excéder 5000 euros, c'est ça?
C'est exactement ça. Alors, On s'est inspiré d'un modèle de fournisseur de meubles du nord de l'Europe, dirons-nous. Et on fait pareil avec le monde du bâtiment, c'est-à-dire que on l'a industrialisé pour que toutes les pièces puissent être mises à plat dans des cartons pour que la logistique puisse se faire de façon la plus optimale possible. On envoie ça sur un chantier, donc il y a déjà la grue, il y a déjà des gens qui travaillent dessus. Et l'objectif, c'est avec une notice de montage et quelques vidéos, pouvoir réassembler cette éolienne au pied du bâtiment, utiliser pendant 5 minutes la grue pour monter cette éolienne sur le bâtiment et pour l'installer rapidement. Mmh. Et quand on est sur un bâtiment en cours de construction, on arrive dans ces zones de prix qui vont tourner entre 4 et 5 000 euros l'éolienne de 2 kW avec une génératrice de 2 kW.
Alors la commercialisation est prévue pour quand ?
L'éolienne, on la commercialise dans son niveau d'avancement actuel, mais elle est déjà très efficace au vu de la concurrence. Et on commercialise surtout beaucoup, là, en ce moment, tout ce qui est études de gisements éoliens. C'est-à-dire, dès qu'il y a un promoteur qui a un nouveau bâtiment, il veut faire du mix énergétique, il veut optimiser ce qu'on appelle la cinquième façade, enfin, sa toiture. Régulièrement, il va y mettre que du photovoltaïque parce que c'est la chose facile pour faire un bâtiment producteur d'énergie. Mais nous, on va le voir en lui disant, on va regarder s'il y a un couloir devant, s'il y a de l'énergie éolienne. Et en l'occurrence, s'il y en a, à l'endroit optimal sur le bâtiment, on va y mettre des éoliennes. Sur le reste du bâtiment, on va y mettre du photovoltaïque. Et ainsi, le bâtiment produira plus d'énergie pour moins de carbone. Il y aura une notion de made in France et il aura surtout une caractéristique que le photovoltaïque ne pourra jamais faire, la capacité de produire aussi l'énergie la nuit. Mmh. Et donc voilà, ce concept d'étude des vents a pour vocation d'optimiser le mix énergétique des futurs bâtiments.
Chapeau monsieur, et combien d'emplois pour l'instant à une éole ?
Là on est 8 et il y a une petite levée de fonds là qui se fait en même temps. L'objectif est d'arriver d'ici 3 ans à une équipe de 25-30 personnes.
Bravo, à suivre, hein. Super invention, ça s'appelle Unéole, unéole.fr pour le site, on va vous mettre en lien avec la plateforme si vous voulez participer au développement de ce programme qui est 100% écologiquement compatible, durable, zéro carbone, vous l'avez compris avec tous les avantages, voilà pour ce programme d'éoliennes urbaines. Merci et bravo Quentin.
Mais grand merci à vous et je l'espère bientôt.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Il y a toujours des personnes extraordinaires dans notre monde qui font un travail tout aussi extraordinaire, mais dont on ne parle pas assez. Je pense précisément à un sapeur-pompier professionnel, Thierry Velu, qui a créé en 1999 le groupe de secours catastrophe français. Première mission, intervenir dans le monde lors de catastrophes naturelles, mais aussi en France, auprès des gens de la rue. L'ONG a mis en place un kit de survie qui n'est pas une solution à la problématique des sans-abri, mais qui leur assure toutefois un petit moyen de survivre lorsqu'ils ne sont pas pris en charge par les services sociaux, malgré des appels réitérés jusqu'au plus haut niveau de l'État, sous l'ancienne présidence et sous l'actuelle. Cette ONG ne reçoit aucun soutien, est obligée de multiplier les ouvertures de cagnottes, en sachant que le collectif perd en moyenne 30 000 euros par an dans ses actions. En novembre dernier, le groupe de secours catastrophe français a publié un manifeste pour un changement de politique concernant la prise en charge des personnes à la rue. Toujours pas de réponse, quoi qu'il en soit, vous pouvez le télécharger depuis le site du groupement, le lien à nos pages, et vous verrez que ce groupe a la prétention de pouvoir sortir de la rue ces personnes sans ressources. Et vous trouverez aussi la liste des dernières interventions 2018. Elles sont innombrables, c'est des gens extraordinaires. Le siège de l'ONG est à Villeneuve-d'Ascq. Pauline Casalegno, bonjour.
Oui, bonjour.
Avec Amandine, vous êtes membre, parce qu'elle nous a écrit aussi, vous êtes membre d'un collectif, Cœur d'Orchis, créé en mars 2018, à la suite d'un projet donc à Orchis, par la grande société que l'on connaît, la société Leroux, la maison Leroux, la chicorée Leroux, qui emploie encore 120 personnes, de vendre une partie de son patrimoine, à savoir les jardins et le bâtiment qui abritait le musée, à un promoteur immobilier. Et vous, habitants et habitantes d'Orchis, vous vous y êtes opposés.
Oui, alors c'est vrai que le collectif a été créé suite à cette annonce de fermeture du musée de la chicorée. Et effectivement, l'annonce qu'un promoteur immobilier voulait racheter ce musée, le parc, et en faire des logements. On a été une poignée de personnes au début à se mobiliser pour un projet alternatif, parce qu'on était persuadé que sur ce lieu-là, qui est effectivement un lieu de patrimoine culturel, historique et environnemental, on disait qu'on pouvait rêver mieux que simplement des logements sur ce lieu-là.
Bah oui, on comprend, donc, parce que le jardin est magnifique et le bâtiment est superbe aussi.
Oui, tout à fait. Ce sont vraiment des lieux qui, pour l'instant, sont en partie publics. Tant qu'il y avait le musée, c'était en partie public. Et c'est vrai que nous, du coup, on s'est mobilisés en disant, ben, on veut proposer un projet ouvert à tous, qui préserve le jardin et ses arbres centenaires et la dimension patrimoniale de ce lieu, et qu'on en profite du coup pour faire un lieu de vie et de rencontre en plein cœur du ville d'Orchy.
Et Pauline, la mise à prix de ce jardin et de ce bâtiment est de l'ordre de 1,4 million d'euros.
Alors ça, c'était les premières estimations. On a su depuis que, en fait, le prix de vente n'était pas encore complètement fixé. Donc, on essaye de se dire que ce montant-là n'est pas à retenir pour l'instant.
Mais alors, ce que vous voudriez aménager à l'intérieur de ce patrimoine, à préserver, ça on vous comprend évidemment, c'est une micro-folie.
Alors, une micro-folie. Donc, peut-être qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas. Dans le Nord, nous, on connaît bien les maisons folies. Ouais. Il y en a plusieurs à Lille. Et elles ont une petite sœur, enfin des petites sœurs maintenant, qui sont les micro-folies. Et c'est un dispositif qui est appuyé par la Villette à Paris pour développer ce dispositif en rural ou en semi-urbain ou en urbain. Donc en quelques mots, c'est un lieu qui permet de rassembler plein de composantes. En fait, c'est un musée numérique, un café, espace scénique, une ludothèque et un repair café. Et autour de ces quatre modules, après on fait ce qu'on veut, entre guillemets, on brode en fonction des dynamiques du territoire. Et on a eu la chance d'avoir un appui d'ailleurs d'une personne de la Villette qui est venue présenter aux élus de la communauté de communes ce dispositif, et la présentation a quand même été jugée séduisante, parce qu'en plus elle connecte avec beaucoup de projets, d'associations qui nous ont rejointes, qui sont intéressées par le projet. Que ce soit des associations autour du consommer local et des zéro déchets comme la ressourcerie, qui voulait mettre un hyper café en place mais qui n'a pas le lieu. On a aussi des associations de théâtre et de danse qui cherchent des lieux avec des scènes petites et facilement accessibles. On a bien évidemment les familles qui ont envie d'avoir des lieux, un jardin, un café associatif pour pouvoir se retrouver. Et puis des porteurs de projets individuels aussi, qui étaient très intéressés par une dimension d'espace de coworking qu'on souhaitait aussi ajouter à cette micro-folie.
Il vous reste donc à convaincre les collectivités.
Tout à fait. Donc là, c'est la troisième grande étape. Oui. Puisque, pour tout vous dire, nous, enfin, depuis mars, on est vraiment plus que surpris et heureux d'avoir réussi à impulser et de voir qu'en fait, il ne suffit pas grand-chose pour que les gens se mobilisent. Et en fait, c'est cet espoir et cette créativité qu'on veut faire vivre aux élus et qui puissent nous suivre et nous rejoindre dans cette aventure, puisqu'on a besoin d'eux pour acheter ce lieu-là.
Ouais. Mais la première démarche, Pauline, ne serait-elle pas de convaincre la maison Leroux elle-même ?
Alors, oui et non, mais disons qu'on ne peut pas les obliger à nous vendre ce lieu-là, ou alors à changer d'engagement, puisqu'ils sont déjà en lien avec le promoteur immobilier. Ouais. Alors que la collectivité, elle, a un possible droit de préemption. Après, c'est vrai qu'on a essayé d'échanger avec la famille Armand, donc qui est successeur des Leroux. Voilà, c'est pas pour l'instant la piste qui est la plus facile, mais on est vraiment ouvert à toute discussion. Et si notre projet finalement leur paraît plus intéressant, on échangerait avec eux avec grand plaisir.
Le lieu est exceptionnel, hein. Je le répète, allez sur la page Facebook, vous allez voir le bâtiment. Les grands bâtiments en pierre de taille, trois en ardoise avec les immenses terrasses et balustrades en pierre. C'est superbe, hein, comme patrimoine. Orchy Respire, la page Facebook, c'est l'adresse que vous allez trouver à notre page d'émission. Merci Pauline.
Merci beaucoup à vous.
Comme les carnets, le jeu des 1000 euros est dans le département du Nord. Cette semaine, on commence par Berg. Nicolas Stoufflet.